Radio Prague, les informations.
Le ministre Stefan Füle est nommé au poste de commissaire européen. Deux soldats du contingent tchèque en Afghanistan licenciés. On a peut-être retrouvé le tombeau de Sainte Agnès. Bonsoir, c'est le ministre en charge des Affaires européennes, Stefan Füle, qui est le candidat de la République tchèque au poste de commissaire européen. Telle est la décision du gouvernement tchèque qui a pris cependant en considération les avis des principaux partis politiques sur cette question. L'information a été donnée à la presse par le Premier ministre tchèque, Jan Fischer, qui a expliqué que le processus de nomination du candidat avait été compliqué. La décision de choisir finalement Stefan Füle est le résultat d'un compromis entre le Parti social-démocrate et l'ODS. Füle remplacera à Bruxelles le commissaire actuel et ancien Premier ministre tchèque Vladimír Špidla. Le ministre de l'Intérieur Martin Bartak a décidé de licencier deux soldats du contingent tchèque en Afghanistan pour avoir porté des casques avec des symboles des unités SS. Leur commandant Petr Prohaska a été mis temporairement hors service. Ce lundi, déjà, le soldat de l'armée tchèque Lukáš Sedláček a été licencié. Ce dernier aurait confondé et entraîné l'organisation néo-nazie White Justice. Selon le ministre Martin Bartak, ces mesures font partie d'une volonté d'épurer l'armée tchèque. Le président tchèque Václav Klaus a présenté ce mardi 10 novembre son nouveau livre intitulé « Où commence demain ?». Le livre revient sur les événements de 1989, sur les années 90, la situation actuelle et les orientations de la politique tchèque et européenne. Klaus a cependant fait savoir qu'il ne considère pas ce livre comme un recueil de souvenirs, mais plutôt comme un ouvrage analytique. Il a confié aux journalistes avoir commencé à écrire ce dernier il y a 5 ans, mais il voulait le terminer pour le publier comme un cadeau pour l'anniversaire du 17 novembre. Des restaurateurs auraient peut-être retrouvé le tombeau de Sainte Agnès, sainte tchèque, sœur de Venceslas Ier qui a vécu au XIIIe siècle et probablement la fondatrice en 1231 du couvent des Clarisses qui porte aujourd'hui son nom. Son tombeau était considéré comme perdu mais beaucoup pensaient qu'il était caché dans l'église située sur la place Achtalske à deux pas du couvent. La nouvelle sera confirmée lors de l'ouverture du tombeau. La découverte se produit à deux jours du 20e anniversaire de la canonisation de la sainte par le pape Jean-Paul II, le 12 novembre 1989. Un jour à peine après la fin de sa carrière de joueur, l'ancien international Vladimír Šmicer a été nommé manager de l'équipe nationale tchèque de football. Šmicer a partagé sa carrière de footballeur entre les clubs du Slavia Prague, du RC Lens, du FC Liverpool et des Girondins de Bordeaux avec lesquels il a remporté les plus prestigieuses compétitions européennes. Vladimír Šmicer a directement pris ses nouvelles fonctions et il accompagnera dès vendredi l'équipe nationale tchèque qui participera à un tournoi organisé aux Émirats Arabes Unis. On termine avec un mot de météo. Mercredi, aucune région tchèque n'échappera à un temps couvert et nuageux, accompagné de brouillard pendant les premières heures de la matinée et de quelques averses pour le reste de la journée. Les températures maximales s'échelonneront de 3 à 7 degrés. Nous fêterons les Martines. Attention, cela veut dire Martin en tchèque, c'est un prénom masculin. C'était le bulletin d'information présenté par Anne-Claire Veluer.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Stefan Füle, nous l'avons dit, est le candidat au poste d'eurocommissaire tchèque. À l'issue de longues tractations, son nom a été officiellement annoncé ce mardi. Plus de précisions dans cette émission. Les jeunes tchèques aiment le cannabis et l'ecstasy au point de détenir dans leur consommation une primauté à l'échelle européenne. Voilà le sujet que nous développerons ensuite. Nous céderons aussi la parole à deux de nos auditeurs de longue date pour écouter leur confession en rapport avec le prochain anniversaire de la chute du communisme dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Et on s'arrêtera sur un spectacle de danse français, pas comme les autres, qui a été donné à Prague. La Tchéquie tient donc enfin son nouveau commissaire européen. Après d'âpres discussions, le gouvernement et les principaux partis politiques du pays se sont entendus sur le nom de Stefan Füle, l'actuel ministre en charge des affaires européennes, Guillaume Narguet.
Quand il s'agit d'Union européenne, les choses sont rarement simples en République tchèque. Après l'achèvement du long et difficile processus de ratification du traité de Lisbonne, un des principaux thèmes politiques de ces derniers jours dans les médias pragois était la nomination du nouveau candidat appelé à remplacer Vladimir Spidla à la Commission européenne. Malgré l'urgence de la situation, la présidence suédoise de l'Union européenne réclamant que chaque pays membre présente une candidature avant la tenue du sommet de cette semaine, les deux grands partis du pays, le Parti civique démocrate pour la droite et le Parti social démocrate pour la gauche, étaient incapables de s'entendre sur un candidat acceptable pour tous. Lundi encore, quatre candidats restaient encore en lice. Alexandra Vondra, l'ancien ministre en charge des affaires européennes lors de la première moitié de la présidence tchèque, Vladimir Spidla, l'ancien premier ministre socialiste actuellement en poste à Bruxelles, Jan Schweinar, économiste bien connu depuis sa candidature à la dernière élection présidentielle, et Zdeněk Toma, gouverneur de la Banque de République tchèque, dont la candidature a été proposée par le premier ministre indépendant Jan Fischer. Mais aucun d'entre eux ne faisant l'unanimité, c'est finalement Stefan Füle qui a été désigné. L'actuel ministre en charge des affaires européennes est déjà bien connu à Bruxelles pour sa carrière de diplomate. Employé au ministère des Affaires étrangères depuis 1997, Stefan Füle a été notamment ambassadeur en Lituanie puis en Grande-Bretagne. Durant sa mission en Lituanie, il a été le premier responsable politique tchèque à représenter parallèlement les intérêts de l'OTAN. Avant d'intégrer le cabinet d'experts de Jan Fischer en mai dernier suite au renversement du gouvernement de centre-droit dirigé par Mirek Topolánek, Stefan Füle avait été pendant plus de 3 ans l'ambassadeur et le chef de la mission permanente de la République tchèque auprès de l'OTAN. La question du commissaire européen désormais résolue, reste à savoir quel sera le portefeuille de celui-ci au sein de la Commission européenne. L'actuel commissaire tchèque, Vladimir Spidla, était chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, au-delà de la désignation du premier chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui découle de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. La composition de cette nouvelle commission devrait être un des enjeux du sommet extraordinaire dont la tenue est programmée ce jeudi ou dimanche.
Les jeunes tchèques restent en première position de l'échelle européenne de consommation du cannabis et de l'ecstasy. Pour ce qui est du cannabis, notre pays de tiers-même est de loin une triste primauté. En revanche, la Tchéquie affiche un recul de la consommation de drogues dures, à la différence de l'Europe où la consommation de cocaïne est en augmentation. Un fait légèrement positif, le nombre de délits commis en rapport avec la drogue est en baisse en République tchèque. Jirka Gisiblova pour plus de détails.
Selon ce rapport, 44% des Tchèques de moins de 24 ans en fument en juin. La moyenne européenne est de 30%. La Tchéquie constitue une exception parmi les États européens, dans lesquels la popularité de cette drogue est en baisse, après avoir atteint son apogée dans les années 1990. En 2008, la police tchèque a démantelé 80 importants lieux de plantation de cannabis situés pour la plupart dans des résidences. Elle a saisi près de 400 kg de marijuana. D'autre part, la Tchéquie connaît moins de crimes commis en rapport avec le cannabis, 29% seulement par rapport à l'Europe où ce nombre varie entre 55 et 85%. L'explication en est que c'est la méthamphétamine, la drogue traditionnellement fabriquée en Tchéquie, qui est responsable de 60% des délits liés à la drogue. Selon Jiří Presl, médecin-chef de l'association Drop-In, qui est les toxicomanes, notre pays reste le premier laboratoire européen de la pervitine en Europe, et la pervitine reste la première drogue des Tchèques. Que fait la Centrale nationale antidrogue pour y faire face? On écoute son directeur Jakub Friedrich.
Nous ne cessons d'exercer une pression systématique pour démanteler les lieux de production. Nous œuvrerons en vue d'obtenir les changements législatifs liés à la vente des médicaments contre la grippe contenant de la pseudoéphédrine pour limiter la production illégale de la pervitine. Pour illustrer notre travail, en 2008, la police tchèque a démantelé 434 laboratoires de pervitine à domicile.
Autre fait que révèle le rapport sur le phénomène de la drogue en Europe, la consommation de la cocaïne est en progression dans l'ensemble de l'Europe à l'exception de la Tchéquie, où le nombre des usagers s'est stabilisé à près de 10 000. Jiří Presl précise.
Ta vlna přišla i sem, samozřejmě, ale jaksi
Cette vague a frappé naturellement aussi la Tchéquie, mais plutôt le groupe de la société haute, c'est-à-dire des gens aisés, adultes qui savent maîtriser l'usage et ne se retrouvent pas dans des problèmes qui les conduiraient jusqu'à notre centre. Mais pour les autres, c'est la pervitine, la première drogue de choix.
Le rapport européen sur les drogues dit aussi que les organes de l'État restent toujours en pas derrière les trafiquants de drogue. Pour le directeur de la Centrale nationale antidrogue, cela est dû à la logique même de la drogue. Aucun État n'est vainqueur dans cette bataille, peu importe s'il pratique une politique de répression ou pro-libérale. Le moins que l'on puisse faire est de chercher à minimiser les dégâts.
Gardez-vous un souvenir de la chute du régime communiste dans l'ancienne Tchécoslovaquie, survenue quelques jours après celle du mur de Berlin? Lors de son récent séjour à Bordeaux, Magdalena Hrozinková a posé la question à deux de nos fidèles auditeurs. On écoute d'abord Philippe Marsan.
J'ai suivi les informations, disons un petit peu en pointillé, parce que c'est une période, l'automne 1989, où j'ai eu des ennuis personnels. Bon, je me suis retrouvé seul. Et donc, j'avais déménagé, je n'avais pas de télévision. Donc, c'est par la radio un petit peu que j'ai écouté ce qui se passait. J'écoutais pratiquement que la radio FM, quoi, les radios locales. Donc, j'avais quelques informations comme ça. Et quand j'allais chez les personnes, je voyais les images à la télévision, notamment la chute du mur de Berlin et surtout ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie. Parce que je suis très attaché à ce pays.
Depuis quand ?
Alors, c'est une longue histoire. D'abord parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de France, et notamment à l'histoire contemporaine, c'est-à-dire ce qui s'est passé après le traité de Versailles en 1919, c'est-à-dire la première république tchécoslovaque, et ensuite les accords de Munich, et puis ce qui s'est passé aussi pendant la guerre.
Et voici un souvenir de Monsieur Hervé Briand.
En 89, oui, j'ai des souvenirs, mais pas forcément de la Tchécoslovaquie. Effectivement, j'ai eu des informations, mais à l'époque, je me suis intéressé surtout au radioamateurisme et j'ai essayé de trouver, par les radioamateurs tchèques et des pays de l'Est à l'époque, j'ai essayé d'avoir des informations que je n'ai pas forcément eues. Voilà. C'était simple, ça n'a pas été un événement, effectivement, j'étais tourné plus de ce côté-là, et je n'ai pas un grand souvenir de cette époque, et de cet événement.
Mais vous avez appris, à un moment donné, qu'il se passait quelque chose à l'Est, à Berlin, à Prague.
La chute du mur, oui, c'est un événement qui était effectivement très médiatisé, puisqu'avec toutes les images qu'on en a vues de gens en train de détruire le mur, Prague, à l'époque, moi, il me semble, est passé un peu à côté. A été un peu occulté par la chute des murs.
Vous saviez à l'époque quelque chose sur la Tchécoslovaquie ?
Absolument pas. À part les indicatifs radioamateurs que je connaissais, oui. C'est tous les radioclubs tchèques, puisque tous les pays de l'Est, puisque on s'appelait bien pays de l'Est à l'époque, étaient des radioclubs, donc plus ou moins d'État. C'était sur le système communiste. Hein. Donc des radioclubs tout à fait officiels. Oui, je ne connaissais les pays de l'Est que par ces informations et par ces clubs.
Et ça a changé à quel moment ?
Mais après, ça s'est libéré puisqu'il y a eu déjà, il y a eu la scission après, c'est ce qu'on peut parler de scission avec la Slovaquie. Hein. Donc deux indicatifs différents. Au départ, il y avait un indicatif unique pour la Tchécoslovaquie. Après, on a retrouvé deux indicatifs pour deux pays différents. Et ensuite, j'ai un peu laissé tomber le radioamateurisme. Pour me tourner depuis quelques années sur l'écoute des radios internationales. Effectivement, j'ai commencé à écouter les radios internationales à partir de 2001, mais je suis venu par le biais des radios de collection. Et j'ai commencé donc, et ça s'est concrétisé par deux séjours à Prague en 2006. Donc le dernier au mois de décembre, où là j'ai eu la chance de visiter en votre compagnie la radio Prague.
C'est à un voyage insolite qu'ont été conviés dimanche les spectateurs du théâtre ABC de Prague. Une troupe composée de danseurs, de comédiens et de musiciens de l'ensemble Collegium Marianum y a présenté un spectacle intitulé « Voyage d'un maître à danser ». Le spectacle qui raconte les rapports difficiles mais fructueux entre un vieux maître et son élève talentueuse nous permet d'entrevoir à travers la danse le processus passionnant de la création artistique. À l'issue du spectacle, Václav Richter a posé quelques questions aux chorégraphes et danseuses Gudrun Skamletz et au metteur en scène et comédien de cette production, Jean-Denis Monory.
Que peut-on dire de votre spectacle ? Est-ce un ballet, une leçon de danse ou peut-être un récit de voyage ?
C'est une leçon de danse. Véritablement une leçon de danse parce que c'est l'originalité du spectacle, si on veut. J'avais envie de faire un peu comme au cinéma, c'est-à-dire en temps réel, pratiquement un huis clos, baroque, mais bon, dit quand même en diction moderne par moment, d'une leçon en temps réel pour le public.
Mais c'est aussi, je crois, un récit de voyage parce que pendant le spectacle, on voit de différentes danses de différents peuples.
Oui, ça c'était au départ l'idée de Yana Samaradova qui nous a proposé un parcours musical à travers l'Europe. Donc tout en gardant l'idée de la leçon, on a essayé de retracer un petit peu des différentes étapes géographiques. Et voilà, du coup on a essayé de typer un petit peu les danses qui restent quand même à cette époque principalement influencé de la danse française. Donc les différences sont pas énormes, il y a des petites couleurs, mais toutes ces petits caractères vont se mettre ensemble à la fin et enrichir en fait le vécu de la danseuse.
Est-ce que la trame de ce spectacle s'appuie sur un fait historique concret ? Est-ce qu'il s'agit d'un maître à danser concret ?
Non, c'est à partir de témoignages, d'écrits de maîtres à danser qui ont vraiment existé. Et on a fait un mix de ça, un mélange, et pour écrire le scénario. Et donc c'est inventé. Mais la moitié, ou même plus de la moitié de ce que le maître dit dans ce spectacle sont des véritables écrits, des véritables témoignages de maîtres à danser du XVIIe et du XVIIIe siècle, hein, la plupart.
Effectivement, donc Bastien Ossard qui a écrit le texte s'est inspiré de témoignages de maîtres à danser. Et il a mélangé ça avec une manière de voir l'art qu'on peut retrouver dans le baroque avec toute cette finesse et richesse des rythmes, de l'espace, de rapport avec le partenaire. Mais en même temps, donc, on a voulu en quelque sorte dépasser ça en allant jusqu'à ce conte et l'épurement. Donc il y a d'un côté l'enrichissement et de l'autre côté l'épurement. Et ça se chevauche et du coup, voilà, on va un peu dans les deux sens pour que cette danseuse puisse devenir une artiste, en fait.
C'était les faits événements. Notre programme se poursuit.
Panorama.
Panorama.
République tchèque.
Antoine Marès est historien, spécialiste de l'Europe centrale et particulièrement des pays tchèques, titulaire de la chaire d'histoire contemporaine de l'Europe centrale de l'Université de Paris, un Panthéon-Sorbonne. Il est également docteur honoris causa de l'Université Charles de Prague. Il analyse pour enclairvaluir les événements de 1989 en Tchécoslovaquie et l'évolution de la société ces 20 dernières années.
Antoine Marès, nous allons célébrer bientôt l'anniversaire de l'effondrement du régime communiste ici en Tchécoslovaquie. Je voulais vous demander, dans un premier temps, votre regard personnel sur ces événements et puis votre regard d'historien.
Merci. Je crois qu'il faut d'abord se poser la question pourquoi ces événements ont lieu si tard. Vous me demandez mon expérience personnelle. J'ai appelé un ami tchèque le 12 novembre. Le mur était tombé à Berlin. Et il m'a dit, tu te rends compte, même les Bulgares ont réagi et nous pas. Alors, il s'agit de comprendre pourquoi peut-être il y a eu un tel retard, je dirais d'allumage, dans le mouvement de contestation. Le premier point, je pense, c'est le fait que la répression était en Tchécoslovaquie à un niveau très élevé. Václav Havel a été arrêté, condamné au printemps, bon, relâché pour des raisons de santé pendant l'été, mais c'est un bon indicateur du niveau de répression. La deuxième raison, c'est que pour les Tchèques en particulier, l'usage de la violence n'est pas une tradition politique, et que par conséquent, utiliser éventuellement la violence pour renverser un régime, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable, qui n'est pas dans la mentalité tchèque. Je dis souvent que par rapport à leurs voisins hongrois et polonais, qui sont des sociétés à moteur à explosion, les Tchèques sont une société à moteur lent. C'est-à-dire que lorsqu'ils prennent leur élan, il est difficile de les arrêter, mais que pour se mettre en mouvement, il leur faut du temps. Et d'ailleurs, l'absence d'alternance en République tchèque au lendemain de 1989, il faut attendre 1998 pour qu'il y ait une alternance, alors que dans tous les autres pays de la région, il y a eu des alternances très rapides entre gauche et droite, est encore une illustration de ce phénomène. Bon, et puis, bien évidemment, il y a eu les effets anniversaires qui ont joué, et il faut bien dire que le 17 novembre était le dernier des anniversaires possibles dans l'année. Les manifestations ne cessaient de voir leur niveau augmenter depuis un certain temps. Il y avait eu des protestations de masse déjà en 1983, notamment sur le plan religieux, qui venaient amplifier en particulier l'effet de la charte 77, et l'année 88 en particulier avait été marquée par toute une série de manifestations. Et puis un dernier point, je pense que l'effet symbolique du 17 novembre et l'engagement des jeunes a été déterminant. Le parallèle entre le 17 novembre 1939, la fermeture de tous les établissements d'enseignement supérieur, la mort du jeune Oplétal, au début du mois de novembre 1939, et l'annonce de la mort d'un étudiant, fausse nouvelle à dire vrai, ont mis le feu aux poudres. Et là, c'était trop. On touchait la jeunesse. On pouvait faire le parallèle symbolique entre l'occupant nazi et le régime, avec une occupation militaire soviétique depuis 1968, et ça a été, je dirais, l'étincelle. Et ça montre aussi le rôle que l'on peut constater à travers l'histoire de la jeunesse, et notamment de la jeunesse étudiante, dans la contestation des pouvoirs autoritaires ou dictatoriaux que cet espace a subi.
Pour continuer sur ces événements de 89, ou plutôt pour faire un bilan 20 ans après, les choses ont bien changé entre ces quelques années d'euphorie, on va dire, ou quelques mois seulement peut-être d'euphorie, et maintenant 2009, comment voyez-vous les changements qui ont été opérés pendant ces 20 années?
Alors, je dirais que toute révolution, et on a appelé ces événements, on a qualifié ces événements de révolution de velours, génère beaucoup d'espoir. De ce point de vue-là, la situation de 1989 peut être comparée à celle de 1945. Mêmes espoirs, même départ des troupes étrangères, même sentiment de libération, même soulagement, même réconciliation de la société autour d'un événement un petit peu climaxique, une sorte de sommet où tout le monde se sent égal. Et j'ai pas vécu directement les événements de novembre. Je suis arrivé au début de l'année 1990, où j'ai passé 15 jours à Prague. Et il était extraordinaire de voir la proximité entre les nouveaux dirigeants et les citoyens. On approchait Václav Havel, les ministres, on pouvait discuter avec eux quasiment dans la rue. Il n'y avait pas cette barrière. Cette barrière avait disparu. Elle est revenue. Elle est revenue assez vite. Et en fait, je crois qu'on a sous-estimé, au profit de l'image d'une rupture radicale, les éléments de continuité. Et ces éléments de continuité, il me semble multiples. D'abord, le fait qu'en République tchèque, ça n'a pas été le cas en Slovaquie, le Parti communiste soit resté et joue un rôle et toujours un poids relativement important, entre 10-15%, hein, des suffrages au des élections, est à mon avis assez symptomatique du fait que le communisme en Tchécoslovaquie, plus précisément en pays tchèque, est un phénomène endogène. Ce n'est pas quelque chose qui est importé. Ce n'est pas la même chose qu'en Pologne ou qu'en Hongrie. Deuxième séquelle, je dirais, et les séquelles sont assez nombreuses, ces quatre décennies, la tenue de la société et le manque d'activité des corps intermédiaires au profit d'un individualisme qui reste encore assez étonnant. Bon, et je crois que du coup, on est revenu à un système où il y a une division entre la société et le corps politique. corps politique qui n'est pas brillant, mais c'est toujours eux et nous. Il n'y a pas cette unité, peut-être par manque de corps intermédiaires. L'autre point qui peut apparaître comme une victoire posthume du communisme, c'est l'athéisation de cette société. À un moment, on a cru que l'Église était revenue dans le jeu national. Il y avait une sorte de relégitimation de l'Église catholique à la fin des années 80. Et cette relégitimation a disparu sous l'impact d'un certain nombre d'événements, en particulier de l'attitude de cette Église catholique tchèque et de son attitude très dure, en particulier en matière de restitution. Et puis, il me semble aussi que ce que nous avons vécu au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, c'est-à-dire les positions extrêmement frileuses à l'égard de l'Europe, à l'égard du traité de Lisbonne, sont un héritage très direct de cette politique qui a été cultivée par le pouvoir pendant des années, pendant des décennies, de méfiance vis-à-vis de l'autre. Ce repli, le président Klaus, de ce point de vue-là, me semble un parfait héritier de la période communiste.
Et sur ces propos d'Antoine Marès se termine notre programme d'aujourd'hui.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.